Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, même, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 8e édition de l'Instant 2. C'est non sans émotion que je réalise que l'aventure continue sur Radio Grenouille et que finalement, c'est un peu grâce à vous. Le mois dernier, on parcourait les Balkans avec Sarah Sajn. Cette semaine, c'est dans le monde merveilleux des croches, des notes et du son que je vous embarque. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, me direz-vous, mais si Nietzsche n'avait pas pondu cette citation, moi j'aurais bien inventé que sans la musique, la vie serait une erreur. Et c'est probablement le mot d'ordre de mon invité ce mois-ci. Un groupe de musique presque 100% marseillais qui a parcouru le monde et répandu son flot dans les oreilles extatiques de milliers de personnes. Que reste-t-il quand tout est perdu ? Eh bien la musique. Qu'y a-t-il le matin quand il est si difficile de sortir de la couette ? Encore la musique. Et qu'est-ce qui transcende le quotidien, l'amour et la vie ? En somme, la musique toujours. C'est un sujet difficile à explorer car difficile à décrire avec des mots, car la musique les remplace en général. On se pliera aujourd'hui à l'exercice pour explorer le monde des labels indépendants, pour comprendre la vie de celles et ceux qui font vibrer les cordes des guitares et chanter les cordes vocales. Pour nous guider et nous accompagner dans cette lourde tâche, un initié qui n'a pas perdu cette lueur et cette fraîcheur dans les yeux, cette flamme que Garcia Lorca appelait le Duende. Le groupe Huachaclan est dans l'instant 2, Supreme Clem, le DJ à capuche du groupe, est ici pour nous présenter ses nouveaux projets. On remonte le temps depuis leur début jusqu'au nouveau projet qui l'occupe aujourd'hui. Débrancher les amplis, aujourd'hui place à nos voix, nous sommes en acoustique, vous êtes dans l'instant 2 et vous êtes chez vous.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Clément Kézan.
Et bonjour Mélanie.
C'est comme ça qu'on dit maintenant ?
C'est bien ça.
Ça va bien ?
Oui, ça va très bien.
Ça vient d'où, Kézan ?
Je pense que c'est d'origine celte, ça voudrait dire quelque chose comme pierre saine, quelque chose d'assez mystique dans le genre.
Vous êtes quelqu'un de saint, Clément ?
Je ne sais pas vraiment. En tout cas, j'ai une pierre, c'est sûr.
Pourquoi ça ?
Non, j'en sais rien du tout.
Non, c'était juste une réponse.
C'était
en fait.
Ça.
D'accord. Clément, on vous appelle toujours Supreme Clem, c'est ça ? DJ Supreme Clem, comment ?
DJ ou pas forcément, parce qu'en fait, à la base, je suis surtout, on va dire, machiniste, bidouilleur de son. Donc DJ, c'est pour faire court, pour simplifier les choses, pour dire que je manipule des sons. Et aujourd'hui, c'est vrai que le DJ, on imagine que c'est celui qui est derrière des platines. En fait, non, en fait, moi, je suis plutôt un bidouilleur créateur de musique. Donc, j'ai des machines, des synthés. Mm. Et c'est ce que je fais depuis 15 ans avec le groupe Huachaclan et maintenant avec le projet 6K.
Ouais, on va en parler, évidemment. Mais le groupe Huachaclan, moi, je l'ai découvert assez récemment, en fait, bizarrement. Il y a peut-être 2 ans, pour l'album, c'était Radio Babel à ce moment-là. Et vous êtes 4 hein, dans le groupe. Il y a Nassim et Matt Labesse.
C'est ça.
Nassim, c'est une sorte de Touareg, en fait.
Nassim, c'est ça. On l'a rencontré en Algérie il y a plus de 12 ans. Et c'est un jeune qui a exactement le même âge que moi, qui a grandi en Algérie dans les années 80, pareil, et qui en fait a grandi avec cette culture à la fois de musique traditionnelle et de grande musique pop, rock. Mmh. Et on s'est retrouvés sur pas mal de points, et avec cet intérêt de mélanger, de fusionner les musiques, et Nassim était un élément parfait pour faire ça.
Ouais, ça, les rencontres, justement, c'est important dans un groupe, hein, ça prend ou ça prend pas ?
Ça prend ou ça prend pas, et puis surtout ça nourrit la création, surtout sur une longue histoire de groupe, c'est les rencontres qui font qu'un groupe va durer en fait.
Ouais, et l'origine de ce groupe, alors ça fait 15 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Ça commence à durer, le temps passe vite, j'imagine.
Exactement.
Et il y a Matt aussi, donc Matt Labesse qui fait plutôt la percu, lui ?
Non, lui c'est plutôt la basse.
La basse, ouais, percu basse, moi je considère ça un petit peu de la même manière, mais effectivement, et lui vous l'avez rencontré comment, Clément ?
Lui c'était à une époque où on a changé justement de musicien, et notre batteur de l'époque, parce qu'après on n'a plus eu de batteur, nous a présenté ce bassiste.
Ouais.
Qui faisait aussi de la contrebasse et de la guitare, et du coup ça nous a plu parce qu'en plus il était multi-instrumentiste, donc multi j'en sais rien, plein de choses, multitâche. Et c'est vrai que c'est ce genre de personnalité avec qui on aime bien travailler, justement, avec Karine, puisqu'on a envie de faire plein de choses, on est boulimique d'envie.
Ouais, et puis il y a Karine, évidemment,
et évidemment Karine,
appelée,
la chanteuse
Sistaka, hein, c'est ça. Son surnom, son nom de scène, comme vous. Alors là aussi elle rajoute un côté, j'allais dire, exotique, hein, sans mauvais jeu de mots, parce qu'elle est métisse. Elle est de quelle origine, Sista?
En fait elle a une partie de sa famille qui est ashkénaze et l'autre séfarade, donc en fait juif d'Algérie et juif plutôt d'Europe de l'Est.
D'Europe de l'Est, oui.
Tout ça, et elle est née à Marseille, donc elle, surtout elle représente ce côté vraiment méditerranéen et mélangé de Marseille, quoi. Nassim vient d'Algérie, Matt il est corse, donc c'est méditerranéen aussi. Moi je viens des Alpes, ça n'a rien à voir, mais quand même c'est vraiment Marseille.
Il n'y a pas de bruit de mouton ou de cloche hein, dans vos...
Non. Quoique si, il y en a eu.
Ah oui,
il y en a eu.
D'accord. Et justement, donc ces influences, vous les avez évoquées. Et le côté balkanique, un peu, qui est quand même là et bien présent chez Wacha, il vient d'où?
C'est compliqué, en
pas
fait.
De vous, enfin, pas de vous quatre, en tout cas. Peut-être
non, si, un peu du côté de Karine, on va dire du côté de la musique juive d'Europe de l'Est.
Ouais.
De rencontres qu'on a pu faire aussi, puisque c'est des musiciens, quand on a tourné, par exemple, notamment en Grèce, en Turquie, c'est une musique qui, en tout cas, qui nous a bercés, même en Allemagne, où elle était assez présente. Mmh. Et puis, il s'est trouvé qu'un de nos morceaux phares qu'on a fait en 2008, c'était une reprise d'un morceau arabe andalou, Balkan Kulu, qu'on a arrangé à la sauce balkanique, sur un coup de tête, comme ça, et ça a été un peu notre premier succès, on va dire, et c'est avec ça qu'on a été connus en Allemagne, c'est un morceau qui a été beaucoup joué dans les radios, beaucoup remixé. Et c'est vrai que moi, c'est une culture qui m'a toujours attiré, la musique balkanique.
Mais en fait, c'est très à la mode de ce qu'on appelle surtout le Balkan Brass. Mmh. Est-ce que vous pensez que vous en avez été un peu les précurseurs avec Wacha Clan ou pas?
Précurseurs. En tout cas, on était en plein dans ce mouvement qui était européen. Et j'avoue que la France, je pense, a été un peu en retard de ce mouvement-là. Parce que dès 2006 ou 2008, on tournait beaucoup en Allemagne et il y avait des grosses Balkan parties qui ramenaient des centaines de personnes.
C'est ça.
Et des gens qui n'écoutaient que de la musique balkan pendant 6 heures d'affilée.
Incroyable.
Chose que je ne voyais pas encore en France, quoi. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que. On a pris goût en France avec Bregovic, on connaît quelques La Fanfare Chocarlia qui a tourné.
Ouais. Coussouris de ça, les films aussi de Coussouris de ça.
Exactement, les films. Mais on va dire qu'on n'a pas vu encore le potentiel de soirée, de DJ, alors que dans le reste de l'Europe, c'est vraiment un concept qui s'est déjà bien répandu.
Il y a justement en Serbie, il y a le Guča Festival qui est très connu aussi, plutôt pour le coup, on n'est pas dans du Balkan électro, mais vraiment traditionnel. Là, c'est les trompettes, etc. Vous l'avez déjà vécu, ça ou,
Non, j'ai des amis qui y sont allés, j'ai vu beaucoup d'images, mais c'est un peu la mecque de la trompette là-bas. C'est les concours de fanfare, les battles de groupe, c'est un grand moment. Et puis c'est la Serbie, donc il y a une sacrée ambiance.
Ouais. Et jouer dans les Balkans, justement, ça vous l'avez fait avec Wacha Clan plusieurs fois, me semble-t-il.
Plusieurs fois, en tout cas en Serbie, oui. Après, on est allé en Grèce, à la limite de la Macédoine, où on sent vraiment l'influence. Parce que les Balkans, c'est quand même une aire géographique assez large.
Ouais.
Et après, un peu plus au nord, on a retrouvé ça en Autriche, en Slovaquie.
Et l'atmosphère de la bière qui vole et compagnie, c'est ça? Dans les concerts.
Oui, après, je pense que Guča, c'est quelque chose à vivre qui est vraiment particulier. Ouais. Là, c'est le summum de la fête balkane, je pense.
Ça a été quoi, justement, le plus... Parce que vous avez parcouru l'Europe, il y a eu même le Japon aussi, vous êtes parti au Japon, les États-Unis. Ça a été quoi le plus grand souvenir pour le groupe de Wacha Clan, selon vous, Clem?
Selon moi, ça serait la Biélorussie. Donc, c'était un pays complètement à part, c'était les pays baltes, donc déjà, on a du mal à savoir vraiment où c'est.
C'est vrai. Et maintenant, ça y est, vous la situez sur une carte.
Ah ouais, complètement. Et en fait, ce qui se passait, c'est que c'est quand même limite une dictature, la dernière, peut-être même dictature communiste, en tout cas, du monde. Et donc, on jouait dans une salle philharmonique, quoi, avec, on va dire, premier rangée, les généraux.
Oh, c'est pas vrai.
Tous les gens assis. Et en haut, dans le balcon, les jeunes, en fait.
Qui étaient venus là pour vous
exactement.
Voir, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, les généraux de Biélorussie?
Parce que c'est comme ça, en tant qu'invité officiel par l'ambassade française.
Enfin,
on est obligé de toute façon de faire les choses.
C'était dans le cadre institutionnel. Donc.
Ah, on est obligé pour entrer en Biélorussie. De toute façon, il faut que tout ça soit.
Et comment ça vous est venu d'aller jouer là-bas?
Mais en fait, on faisait une tournée dans les pays baltes. On a fait la Lituanie, la Lettonie et aussi, du coup, la Biélorussie. Quoi.
D'accord.
Et c'était une super expérience. Mais notamment la Biélorussie, ce qui était marrant, c'est que voilà, les gens étaient assis, ils n'avaient pas le droit de se lever.
Ouais.
Enfin, pas le droit.
Ouais.
Ils pouvaient danser assis, quoi.
Ouais.
Et au dernier morceau, ça y est, ils pouvaient se lever pour applaudir. Et là, on a profité pour revenir faire un rappel. Et là, ils étaient enfin debout.
Ouais.
Et ils ont pu danser pendant une chanson.
Même les généraux?
Non, eux, ils n'ont pas vraiment dansé. Mais en tout cas, les gens qui étaient prêts à partir et donc qui s'étaient levés, qui étaient dans les allées, ils ont pu rester debout et ils ont pu danser. Et c'est vrai que c'était un des meilleurs moments de
Wacha Clan. Pourquoi ce titre, Wacha?
Wacha, c'était à l'époque, on était très influencé, on a toujours été influencé par la scène reggae. Et Wacha, en fait, c'est en jamaïcain, en patois jamaïcain, ça veut dire contraction de watch out, qui veut dire attention. Donc c'était une manière d'attirer attention, attention, quelque chose va se passer, attention, le clan arrive. Quoi.
D'accord, le watch clan out. Arrive. Et comment vous définiriez votre musique? On va en écouter un extrait, évidemment.
Ah, c'était, on va dire, moi j'appelle ça de l'électro méditerranéen, du global beat, en fait.
D'accord, du global beat. Bah, on va s'écouter un peu de global beat. En tout cas, je sais pas si ce terme. La chanson qu'on va écouter, elle est définissable par ce terme-là, parce que ça a évolué, votre musique, elle n'a pas toujours été la même. On va en parler juste après ça.
Osfor, kalemni
musique qui invite au voyage. C'était Osfour de Ouatchaclan sur Radio Grenouille. L'instant 2.
L'instant 2.
Prenez le temps de partager sur Radio Grenouille.
Toujours avec Suprême Clem, Clément, mon invité du groupe Ouatchaclan. C'est une musique qui invite au voyage, bon déjà parce qu'elle n'est pas en français aussi, ça y fait. Là, c'est quoi comme style? Parce que franchement, on n'est pas tout à fait dans l'électro.
Non, pas du tout. On va dire que c'est une adaptation d'un texte et même d'une chanson de Marcel Ralif, un musicien libanais. Ouais. C'est une chanson sur la liberté en fait. Donc là, on est plutôt dans la folk protest song méditerranéenne, on va dire. Mais bon, c'est un petit côté électro dans le sens qu'on a mis un petit beat hip-hop, une beatbox, quelques éléments de cumbia, un orgue. Ouais. Bref, c'est encore un mélange d'influences. Il n'y a rien de pur là-dedans.
Ouais, c'est vrai qu'il y a la cumbia derrière, un peu, ouais. ou le ragaton un peu, hein,
c'est
derrière.
C'est ça. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, toujours.
C'est dur de définir la musique avec des mots, non ?
Très, très dur de définir la musique avec des mots, d'autant qu'en plus, les gens et beaucoup les médias, tout le monde veut définir la musique et on se retrouve obligé de coller des mots qui ne veulent pas forcément dire ce qu'on veut dire. Donc
et
souvent,
des genres aussi.
Oui, les genres, les classifications, des cases. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à utiliser ces mots et à rentrer dans ces cases. Quoi.
Ouais. C'est pas ce que vous faites, vous, de toute façon.
Non, et puis même,
c'est
je pense
mélangé,
qu'il y a peu
finalement.
De musique qui rentre vraiment dans une case.
Et cette musique, alors, c'est moi qui l'ai choisie, hein. C'est en arabe et en français. On entend Sista donc, chanter sur la musique. Elle chante aussi avec c'est Nassim derrière.
C'est Nassim derrière, ouais.
En arabe, bah oui, évidemment, oui. Lui, ça lui va bien. Qu'est-ce que vous apportez mutuellement, les influences que vous pouvez croiser? C'est vraiment, ça vient vraiment d'un point à un autre, enfin, c'est très différent
C'est un peu comme je te disais avec Nassim, par exemple, c'est vraiment, on a les choses communes, c'est qu'on est un peu de la même génération, et après, c'est le background qu'il a eu, par exemple, lui en Algérie, c'est que les musiques traditionnelles sont présentes quand même partout, dans les fêtes religieuses, dans les fêtes de mariage. Et c'est vrai que là-dessus, il a une vraie culture. Il y a une culture traditionnelle de la musique qui est présente chez tout le monde. On va dire l'oncle, il va pouvoir taper sur la table et faire un rythme en 2-2 et tout le monde connaît la chanson. Et c'est vrai que ça, c'est la musique populaire, entre guillemets, en France, on l'a moins tous en nous.
Ouais, c'est ça.
C'est beaucoup plus compliqué à faire ressortir.
C'est plus anglo-saxon aussi, dans le partage, etc. Pour vous, c'est ça, hein, Ouatchaclan, c'est partagé.
Complètement.
Ouais. Et aussi dans votre manière de travailler et de créer, et d'écrire. Qui écrit la musique, les paroles? Comment ça
Alors,
se passe?
Alors en fait, souvent, ça se passe, c'est Karine qui écrit les mélodies, les paroles, quand c'est des créations. Après, c'est aussi un répertoire dans lequel on allait puiser, donc on voulait reprendre certains morceaux traditionnels. Et pour la musique, c'était souvent moi qui arrangeais, en fait, à partir des idées de Karine et de Nassim.
Oui, d'accord. Vous êtes donc trois vraiment à mettre les mains dans le cambouis. J'imagine que chacun a sa parole, hein, dans le groupe, de toute façon. Depuis 15 ans, il n'y a pas eu des moments un petit peu compliqués, j'imagine.
Si, mais en fait, c'est surtout depuis 15 ans, c'est surtout Karine et moi qui avons fait ce long parcours. On a eu des musiciens qui sont venus, qui sont repartis. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment tous les deux, on a appris en 15 longues années de travail à trouver un peu notre recette et notre manière de travailler.
Qui vous a aidé au début, parce que vous êtes indépendant, hein, toujours aujourd'hui?
On est toujours indépendant, ouais, bien sûr. En fait, au début, le groupe a été créé par mon frère et Karine.
D'accord.
Qui était, à l'époque, mon frère était le chanteur. Donc, ils étaient tous les deux, on va dire, deux MC, des frontman, quoi, les gens de devant, quoi. Et mon frère, après, a décidé de se mettre un peu en retrait, de nous manager. Parce qu'il sentait que, voilà, qu'avec Karine, on était parti vers quelque chose d'autre. On chantait plus en français. On avait envie de reprendre des morceaux en arabe, en hébreu. Et lui, il sentait de défendre le projet. Donc, je pense que là, mon frère, le fait qu'il ait quitté la scène pour se placer derrière un bureau.
Il a impulsé finalement.
Voilà, il nous a donné l'assise pour créer notre label, nous faire tourner. Et donc, c'est vraiment une histoire familiale et c'est une histoire d'artisanat, en fait.
C'est quoi votre label ?
Vailabot, c'est notre association qu'on a créée.
Donc, c'est une asso, quoi.
Ouais, c'est
parti compliqué
d'une asso.
Quand même de trouver les fonds au début pour.
Après, Ouatchaclan, on a eu la chance en 2008 de signer sur un label allemand, Piranha Records, mais en fait, la production, c'est toujours nous qui l'avons faite. On est toujours été autoproduits.
D'accord. On va parler de festival le mois dernier, au mois de mars, il y a eu le festival Babel Med. Le petit, j'allais dire, slogan, c'était Écoutez le monde, écoutons le monde. Ça vous parle, ça?
Oui, bien sûr. Babel Med, c'est quand même un bel événement dans le sens où. En plus, à l'échelle européenne, ça commence à avoir une belle notoriété. Ouais. De plus en plus de gens viennent découvrir des musiques. Et c'est sûr que nous, on se retrouve là-dedans. On a déjà joué plusieurs fois à Babel Med.
La première fois, ça a dû être fou quand même pour un Marseillais comme vous.
À l'époque, c'était tout petit. Je crois que la première fois, c'était la première
année.
C'est vrai. Et la deuxième fois, c'était avec Wilaya 49. C'était en 2013. Et Wilaya 49, en fait, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'était Ouatchaclan.
À cœur.
C'est Ouatchaclan plus des rappeurs algériens oranais, le groupe Tox, et un rappeur américain qui vient de Auckland, Rachan Ahmad. Ouais. Donc c'était encore là une explosion des cultures. Génial. Et on avait joué en 2013 à Babel Med.
Ouais, donc un grand souvenir aussi, quoi.
Ah oui.
Le plus beau concert de votre vie, Clément, au-delà de Ouatchaclan? Parce que vous êtes musicien, mais vous aussi, vous aimez aller en concert, j'imagine.
Eh bien, on va y revenir, justement, à Goran Bregovic, au Dock des Suds. Je ne sais plus quelle fiesta c'était.
Ah, j'y étais, je crois, aussi.
Mais c'était il y a très longtemps. Hein,
c'est la fiesta des Suds, oui.
Il y avait, où ils ont joué la Reine Margot. Et
incroyable.
Avec tous les choristes. Et c'est vrai que c'était un moment... je me fais souvent des malaises, moi, dans les gros festivals.
Oui, aussi, oui.
Et bien là, ça n'a pas raté.
On a une petite nature, hein, tous les
voilà.
deux, c'est
et
ça.
Et là, ça n'a pas raté sur ce concert de Bregovic, où il y avait... Ben voilà, il a joué des...
Aider Alési,
Le Temps des Gitans, la Reine Margot, des BO et des musiques que j'adore, avec là, pas seulement juste deux chanteuses, des voix vulgaires, il y avait tout le cœur.
Et là, vous êtes effondré.
Ah ouais. À cause des gens aussi, de la chaleur, des Dogs des Suds. C'était l'ancien Dogs des Suds, c'était une grande époque, cette fiesta-là. Mais...
Ouais, vous avez connu cette époque-là. Bon, Clément, vu qu'on commence à se connaître un petit peu plus au bout d'une vingtaine de minutes dans l'instant 2, dans cette émission, il y a toujours un petit moment surprise, quoi, un petit truc surprenant où je vous annonce pas la chose. Il y a quelqu'un qui a voulu vous dire quelque chose. Vous allez la reconnaître assez vite, hein, je pense.
Parlez-moi de lui.
Instant.
Comme si c'était la première fois.
C'est du sang qui coule dans ses veines. Début des années 2000, à une soirée d'amis d'amis, un mec posé qui m'impressionne un peu. Le son grave de sa voix me parlant de son m'électrise la colonne. Je suis pluguée. Ses compiles sur cassette sont des armes de séduction massive. Je me retrouve collée aux bandes comme une mouche. Il inonde ses potes de musique, ça deal des mini-disques à longueur de temps. Sa collection est un trésor, une grande boîte à chaussures remplie de ses dizaines d'objets, à mi-chemin entre la disquette et le CD. Il a aussi une drôle de machine sur laquelle il boucle des échantillons, et ses mélanges sont terribles, l'Electribe et sa forge à son. Son activité de groupe reste mystérieuse pendant un certain temps, puis je le découvre sur scène avec le clan. Je danse comme une folle, j'adore leur fusion. J'adopte sa tribu, et sa tribu m'adopte aussi. 4 albums, 10 ans de tournée. Être femme de musicien m'amène à me sentir très proche des femmes de marin, sauf qu'avec l'avion, ça va plus vite. L'Allemagne devient son second pays, au sud, il y a le Maroc et l'Algérie, au nord, la Norvège et les Pays-Baltes, à l'ouest, le Canada, les États-Unis, à l'est, les Balkans, la Russie, le Japon. Il devient un professionnel de la valise. Voyager avec lui me fait sentir ultra bordélique. J'use de mes talents d'ethnographe pour lui faire raconter tous ces pays. On apprend à être décalé. Frustration parfois, ennui jamais. Milieu des années 2010, après avoir régalé ses potes en soirée, il en vient petit à petit à faire le DJ. C'est le We Are One Sound System et les Global Bass. L'inondation sonore se propage. Côté groupe, nouveau défi avec Siska. Si les ordi ont depuis longtemps remplacé l'Electribe, l'amour du son est toujours là. Et l'Allemagne réapparaît à l'horizon. Reparti pour un tour ? Sache un truc en tout cas. Toi derrière les platines et moi sur le dance floor avec nos amis, c'est la combinaison nous deux que je préfère. Et ça me régale d'avance de voir comment Michel va grandir au milieu.
Ça va, Clem ?
Ah ouais, c'est une belle surprise.
Donc c'est Elsa, la femme de marin ou de musicien.
C'est ça.
C'est votre chérie, votre femme ?
C'est ça.
C'est ça.
Ma compagne, ma moitié.
C'est ça qui est drôle quand elle dit être femme de musicien. Elle était très, très émue de faire cette chose-là. C'est vrai que souvent, on n'a pas l'occasion de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et de les raconter. C'est une occasion dans cette émission que je donne aux gens autour de vous. Et elle m'a dit, oh là là, mais je vais le déstabiliser, il va m'en vouloir. Ça, donc je veux pas créer de problème dans le couple, mais quoi qu'il en soit, ça vous semble proche ce portrait qu'elle fait de vous ?
Ouais, non, c'est exactement ça, c'est très sincère, puis c'est une longue histoire, parce que ça fait depuis très longtemps qu'on est ensemble, et elle a vécu effectivement toutes ces étapes.
Ça fait combien de temps du coup ?
Ah bah ça fait 13 ans.
Oui, donc au début de Wachaklan, elle a connu les
c'est
débuts.
C'est ça, j'y étais déjà avant de la rencontrer, mais c'est vrai qu'elle a vécu... les premières tournées, entre guillemets, plus en France, plus locale. Et puis après, quand on a commencé à se délocaliser un peu plus en Allemagne, à tourner vraiment beaucoup en Allemagne, beaucoup à l'étranger, et à faire de plus en plus de concerts et à partir régulièrement. Et puis après, justement, aussi, le fait de se poser un peu et d'essayer de faire des soirées DJ, d'organiser des trucs à Marseille, de un peu relocaliser ici.
Ah, il est ému, hein, Clément. Bah oui, c'est normal.
C'est normal.
Il a les yeux qui brillent. Alors apparemment, vous êtes collectionneur, nous dit-elle.
Ah,
vous avez
ça...
une grande boîte et vous mettez plein de trucs dedans. Ça va être sympa, les déménagements avec vous.
J'ai toujours collectionné énormément de choses et c'est vrai que le son c'est quand même aussi un truc un peu de collectionneur et de fétichiste, on aime tous avoir le vinyle, le CD, la cassette. Et c'est vrai que comme il y a eu beaucoup de supports qui sont passés entre mes mains depuis les années 80, J'ai gardé des cassettes, j'ai gardé des CD, des mini-disques, des...
Et c'est ça, vous avez connu les mini-disques et les cassettes, ça, vous le vivez bien, vous vous sentez toujours jeune.
Je pense que les cassettes et les mini-disques, c'était des grands moments. Hein. Les cassettes, c'était... Pouvoir offrir une cassette à quelqu'un, faire un mix, c'était quelque chose
ça,
qui... Ça avait une vraie valeur.
Ça
avait une énorme valeur, une cassette.
Et souvent, quand on entendait la radio aussi, des débuts d'intro, que du coup, on est la génération la plus forte au blind test, parce qu'on reconnaît tout de suite la musique et il fallait appuyer sur le bouton REC
pour enregistrer. J'ai enregistré justement des émissions de Radio Grenouille aussi à l'époque. On n'avait pas Shazam pour savoir ce que c'était. Ils vont passer à peu près 6 mois avant de trouver ce que c'était que ce truc. Nous, on avait une trace sur cassette.
Aller à la Bibliothèque Nationale de France pour trouver. J'ai eu la chance d'aller chez vous, du coup, évidemment. Je suis un peu rentrée dans votre intimité, je suis désolée, pour enregistrer Elsa. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vinyles. Hein. Vous avez une collection incroyable. Mais des vieux aussi. Hein.
Les vinyles, en fait, j'en ai récupéré aussi pas mal de mon père et de mes parents, puisque c'est vrai que la musique, c'est quand même quelque chose qui se transmet dans l'instant, mais aussi, je pense, sur un temps long. Du coup, mon père, fan de jazz, m'a transmis sa collection. Ma mère, qui écoutait plus la musique hippie et les années 60, m'a transmis aussi sa collection. Quand on baigne là-dedans, de toute façon, ça nous a formé tous les sons qu'on a écoutés petits.
Et tout ça, ça fait un beau mélange. Comment vous gérez votre vie quand vous êtes musicien, vie perso? Elle en parle, Elsa. Elle dit « Être femme de musicien me sent proche des femmes de marin, sauf qu'avec l'avion, ça va plus vite. » C'est joliment dit, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Ce qu'elle dit aussi, c'est qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer, effectivement, puisque comme on est toujours parti, il y a toujours l'excitation de revenir. Et c'est vrai que c'est... Le quotidien est à chaque fois nouveau. En plus, nous, à chaque fois, on fait des dates, on a toujours l'excitation de partir. En même temps,
La frustration, elle en parle aussi quand même, ça n'a pas été toujours facile.
C'est normal, mais ça fait partie aussi, je pense, d'une vie de couple. Voilà, c'est comme ça. Hein.
Et puis, être musicien, la légende veut que vous soyez toujours à droite et à gauche et que vous soyez toujours un peu charmeur. Vous savez, il y a ça, la légende du musicien.
C'est une légende, oui.
Genre, il va pas dire
non,
ça.
Non, mais c'est vrai.
Ça va écouter, donc, à un moment
donné. On se rend pas compte, mais en fait, on a rarement le temps de faire la fête et la tournée. Enfin, ça, c'est vraiment un mythe, quoi. Ouais. En tournée, on fait pas la fête. En fait, c'est notre passion, mais c'est aussi un travail. On a besoin vraiment d'être sérieux et d'être concentré. Sinon, on n'arriverait pas à enchaîner les concerts. Donc, en fait, on n'a pas le temps de rencontrer des filles. C'est faux tout ça.
C'est faux. Bon, en tout cas, une famille, vous en avez une aujourd'hui. Mais parle de Michel. C'est votre fille qui est toute petite,
qui a un an. C'est une grande nouvelle aventure.
Ouais.
Mais c'est pas un bouleversement. C'est quelque chose de plus encore dans la vie qui se rajoute à tout ça, et ça rajoute encore plus de piment et de saveur.
On va avoir une chronique un petit peu plus tard dans l'émission sur la musique et les enfants, les premiers battements de cœur qu'on entend dans le ventre de sa maman. Et justement, vous lui transmettez de la musique à votre fille, vous continuez la transmission.
Ah oui, moi j'ai même rationalisé ça depuis qu'on est sorti de la maternité. Je lui ai mis la musique en vinyle, j'ai choisi, elle a tout eu, du classique au jazz,
c'était
à l'électro, au hip-hop. Non. Je pense que quand, en fait, j'avais amené de la musique aussi pour l'accouchement, et c'était à l'époque, je pense que c'était du Van Morrison qu'elle a dû entendre.
Pas mal.
Ah oui, c'est.
Ouais, c'est bien, ça. Born Eye Girl ou un truc comme ça, non?
Non, je sais plus. C'est Brand New Day ou quelque chose comme ça. Une belle chanson.
D'accord, pour une belle naissance. Bon, voilà, on va arrêter sur le côté un peu intime et émotionnel, parce que vous n'allez pas tenir après le reste de l'émission. On va écouter une chanson que vous nous avez apportée. Il me semble que c'est une BO de cinéma, puisqu'on en a parlé. Alors, peut-être nous la présenter rapidement, et puis on parlera de cinéma juste après.
Oui, mais c'est un extrait de Il était une fois dans l'Ouest de Ennio Morricone. Donc, c'est une version un peu extended du thème de Morton, c'est-à-dire d'un des personnages de Il était une fois dans l'Ouest, pour ceux qui le connaissent.
Ouais.
Et non, mais Ennio Morricone, c'est une de mes grandes influences. C'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui continue à m'inspirer, parce que c'est quelqu'un qui a fait plus de 400 BO de films et qui a, je sais pas, un univers et une manière de faire la musique à l'image qui me fascine et j'adore ça.
Bon, on y va alors.
Thank you.
Ennio Morricone dans l'instant 2 avec Supreme Clem de Watcha Clan.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Le rencontrer un peu plus intimement, j'allais dire, Clem, ça va toujours ?
Oui, très bien.
Oui, ça va, cool. Vous avez créé un personnage sur scène, on va en parler juste après, parce qu'on va parler de cinéma. Vous m'avez donné sur un plateau cette bande originale, donc de Il était une fois dans l'Ouest, hein, c'est ça ?
C'est bien ça.
Ennio Morricone, pourquoi il vous plaît, ce réalisateur ?
Ce compositeur, je sais pas, je trouve qu'il a une manière d'utiliser les sons et la musique. Il y a quelque chose, il y a de l'espace, et puis à un moment, il y a beaucoup de dynamique, il y a toujours de la tension, de la surprise.
Mmh. Surtout dans cette chanson, c'est posé, mais en même temps, il y a quand même toujours ce.
Ah oui.
On sait pas trop ce qui va se passer derrière.
Et puis il a le chic pour trouver à chaque personnage, à chaque thème qu'il va composer, une musique magnifique. Alors là, dans Il était une fois dans l'Ouest, le thème de Claudia Cardinale est superbe, le thème du Cheyenne est génial. Ouais. Bref, c'est à chaque fois, c'est un grand moment. Je pense que là, c'est un grand art d'arriver à faire du cinéma avec une musique pareille, et je pense que Sergio Leone s'est régalé, n'aurait pas fait un aussi bon film sans une aussi belle musique.
Mais ça fait partie de ces duos comme ça, c'est de ça. Réalisateurs, avec, on a vu Alexandre Desplat qui a été récompensé aux Oscars aussi, qui sont presque inséparables, hein, c'est ça. Et justement, la bande originale, le son dans le film, vous pensez que ça transcende le réel, ça transcende l'image ?
Ouais, en tout cas, ça rajoute une dimension, je pense que l'image seule ne pourrait pas amener la dimension sonore, même si c'est de la musique très concrète, il sait des bruits, notamment Ennio Morricone dans ce film-là, il sait utiliser justement le bruit de mouche, le claquement de porte, le grincement de quelque chose pour faire de la musique. Donc je pense que c'est vraiment le son, c'est pas que la musique, c'est un grand broglio de choses comme ça, avec beaucoup de dynamique. Et...
Ouais, dynamique aussi, c'est un film vous me disiez hors micro, que vous regardez tout le temps, c'est Blues Brothers.
Ah oui, ça c'est un des films qui m'a mis aussi à la musique.
Je pensais pas, franchement, je pense qu'il allait dire Kusturica, un truc comme
Non, dans les Blues Brothers, c'est génial, parce qu'il y a un amour immodéré de la musique, c'est quand même l'histoire de deux jeunes passionnés de musique qui ont vécu dans un orphelinat et qui s'en sortent grâce à la musique et qui rassemblent autour d'eux Ray Charles, Aretha Franklin. Les musiciens qui sont derrière sont les musiciens de la Stax, donc un légendaire studio. Ouais. C'est une perle ce film, c'est un classique, mais c'est une perle.
C'est marrant ce que vous dites, la musique qui sort un peu, j'allais dire, de la rue, de la solitude. Vous pensez que vous auriez été quoi si vous n'aviez pas été musicien ?
Aucune idée. Je pense que vu mon tempérament de collectionneur, j'aurais sûrement vendu des disques ou vendu des livres. Ou je sais pas.
Disquaire ou un antiquaire.
Ouais, ou même libraire. Je pense que ça fait partie des choses que j'aurais pu faire. J'aime donner, diffuser en tout cas des choses.
Transmettre. Moi, vous avez votre fille maintenant pour faire ça. Vous lisez, Clément ?
Oui, pas mal. Oui.
Vous avez un livre comme ça, un peu fétiche, qui reste toujours sur le bord de votre table de chevet ?
J'en ai plusieurs. Water Music de T.C. Boyle, Les bébés des consignes automatiques de Murakami Ryu. J'ai plusieurs références comme ça que j'aime bien. J'aime beaucoup la littérature américaine.
Que vous avez pioché aussi un peu dans vos tournées grâce à votre travail de musicien ?
Non, c'est plutôt des livres que j'ai amenés pour amener quelque chose de chez moi en tournée. C'était plutôt l'inverse.
D'accord, c'était plutôt l'inverse. Et donc en tournée, justement, on parlait cinéma, vous avez créé un personnage sur scène. Hein. Je vous ai vu, je ne vous ai pas reconnu. Je me suis dit, mais il est où Clément ? C'est quand même bizarre. Et en fait, non, c'est capuche, gros pull, un peu bad boy de Marseille, alors que vous êtes plutôt un bisounours dans la vie.
C'est ça.
Pourquoi ce besoin de... Je prenais l'exemple de Fauve, qui, eux, par exemple, ne se montrent pas du tout. Bon, après, est-ce que c'est commercial ? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, on ne va pas forcément développer, mais pourquoi ce besoin de transcender comme ça votre personnalité ?
Je pense que sur scène, on a du coup l'occasion d'être quelque chose d'autre, d'être quelque chose d'un peu plus extraordinaire que dans le quotidien, donc pourquoi ne pas en profiter ?
Ouais.
Donc au début, j'ai toujours été très timide, et c'est vrai que j'ai trouvé petit à petit, en tout cas, le costume qui allait bien à l'époque. C'était une djellaba que j'ai customisée pour
ça.
Le coup, avec
un peu
maillot
en mode
de foot
Superman,
dans...
quoi.
C'est ça, ouais. Mais il y avait quelque chose du coup entre le Jedi et le fantôme dedans. Bon, c'est une création, elle m'a accompagné elle aussi au fur et à mesure de ces 15 années avec le groupe.
Elle est toujours là, hein, cette capuche.
Oui, bien sûr.
Et l'influence, c'est quoi, les films de super-héros ?
Non, plutôt les films de science-fiction, parce que c'est un truc qui m'influence aussi beaucoup, les films de série Z, les films de science-fiction, les films d'horreur.
D'accord.
C'est une autre partie de moi, j'aime bien ce côté un peu second degré, mais catharsis violente quand même. J'en ai besoin.
Ouais, parce
aussi.
Que en fait, votre musique, c'est marrant, quand on vous voit, vraiment, vous êtes doux, vous êtes très souriant. Quand on vous voit sur scène, enfin, c'est un petit peu hard, quoi. Ouais. Même ce que vous balancez comme
bien
son avec vos machines, c'est
j'aime
c'est
la
très
musique
urbain,
aussi,
quoi.
Assez très violente. Hein. J'aime la drum and bass, la musique complètement barrée comme du breakbeat. presque jusqu'à de la hard tech. Enfin, je suis influencé par toutes sortes de musiques. Je pense que la musique, ça qui est bien, c'est qu'elle permet d'exprimer plein de choses différentes à n'importe quel moment de la journée. Donc des fois, j'ai besoin d'exprimer des choses douces et des fois des choses violentes. Donc j'en écoute. J'écoute de tout. J'écoute du classique ou de la drum and bass.
Et sous votre capuche, qu'est-ce que vous avez comme instrument sur scène, si on peut appeler ça des instruments?
Bah, en fait, j'ai surtout maintenant c'est l'ordinateur qui est devenu un peu le centre de ma vie, parce que les synthés, tout ça, ça se trimballe pas vraiment en tournée. Donc en fait, dans mon ordinateur, j'ai des VST instruments, des plugins, des choses qui me permettent de faire ma musique. Et avec ça, j'ai des contrôleurs en plastique qui me permettent de contrôler mon ordi.
Ouais, parce que on entendait tout à l'heure dans votre portrait un peu du bidouillage, quoi. Vous en parliez aussi dans votre présentation. Si on doit expliquer à quelqu'un qui est très novice en musique, c'est quoi votre musique? C'est quoi la musique électronique? Comment ça marche?
La musique électronique, en fait, c'est de prendre n'importe quel son enregistré et d'utiliser cette base pour en faire une source. C'est-à-dire que, par exemple...
Genre, si je fais ça...
Mais voilà, ça, avec ça, si on
ça,
le boucle...
Ça, je peux faire un rythme.
Si vous le bouclez, ça va faire un rythme. Ouais. Si vous le pitchez, c'est-à-dire que vous le descendez en tonalité vers le bas, ça peut devenir une basse. Si vous le mettez vers l'aigu ou si vous le rejouez note par note sur un clavier, ça va devenir un instrument.
D'accord. Non, j'essaie parce qu'on a plein de choses dans ce studio qui pourraient être des instruments.
Et c'est donc comme là... ça, en fait, la musique électronique, le hip-hop a commencé. C'était à la base juste des petits échantillons parce que la capacité de mémoire était très, très courte. Donc, ils ont pris des tout petits échantillons et ça a donné la musique électro.
Les bidouilleurs, on connaît les Fab Labs aussi maintenant dans les ateliers d'art numérique. Ça aussi, c'est quand même important. Il y a une autre personne qui a voulu faire une chronique. C'est le moment de la chronique décalée, on l'écoute et on en parle ensuite.
Décalée. Décalée.
Chronique décalée.
Chronique décalée.
Bonjour Julia Rondon.
Bonjour Mélanie Masson. La dernière fois, je traversais le cours Joseph Thierry et je suis passée près d'un enfant qui dansait. Il était petit, 3 ans, 4 ans, et sa tête battait la mesure pendant que son corps balançait à droite et à gauche. C'était un rythme très doux. Il dansait sur un air de musique espagnol. Devant lui, il y avait quelques musiciens, deux guitares, une chanteuse. La mélodie, elle profitait à tous. Elle profitait aux passants, à ceux qui, assis à la terrasse d'un café, étaient devenus des spectateurs obligés, aux chats qui promènent, aux pigeons qui se rassemblent et puis s'envolent. À vrai dire, il vole les pigeons parce que l'enfant qui danse, il trouve qu'il dérange sa piste, son espace. Alors que l'enfant, lui, il a les yeux fermés avec un demi-sourire. Ses bras sont lancés dans l'air et ses petits pieds, ils remuent le tempo. Franchement, les enfants qui dansent, ça a toujours quelque chose de charmant. On pense « Oh, regarde comme il est mignon, t'as vu, il remue les fesses. » Mais lui, ce danseur de ce samedi après-midi sous la douceur du printemps débutant, il n'est pas mignon, ah ça non. Il n'est pas charmant, il n'est pas adorable ou choupiné. À vrai dire, il est la musique. Il palpite avec la musique. Il ressent les sons, les cloches, les croches, les pauses et les silences. Et dièse et bémol sont avec lui. Il est avec les musiciens, il fait corps, il est en résonance. Et en ce samedi après-midi, je ne suis pas seule à remarquer son jeu de jambes et ses ronds de bras. D'autres, à la terrasse du café, ont levé la tête et ils ont regardé, comme moi, mi-étonné, mi-ému, voir cet enfant s'offrir une leçon de mouvement. Et certains se posent exactement la même question que je me pose. D'où vient son talent? D'où vient sa capacité à capter les temps, les rythmes, les mesures, le flow? Franchement, où a-t-il appris à tourner ses hanches, à entendre les changements de tonalité? Et là, franchement, je pense. Le premier rythme que l'on entend, le premier tempo qui vient frapper à notre oreille est celui du cœur de notre mère. On est bien au chaud là, on est dans le ventre, et notre tête et nos oreilles sont à quelques cellules d'écart du cœur et du battement. Le son pulse, et nous, on grandit dans le ventre et on entend. Systole et diastole sont proches de notre tympan. Le cœur se gonfle, se relâche, et voilà qu'on entend pour la première fois un rythme. Plus tard, c'est celui de la musique qui viendra éclater dans notre poitrine en même temps que nos pulsations. Et je pense, si chacun d'entre nous entend pour la première fois ce tempo, humain, sensible, aimant, ceux qui l'appréhendent avec plus de grâce et de finesse que les autres, ceux qui sont exactement comme cet enfant, sont capables de le transcender dans une danse et dans des mouvements, je me demande, est-ce que ce sont les mêmes qui ont collé leur tête pendant 9 mois du côté du cœur de leur mère? Est-ce que ce sont ceux qui ont refusé de se tourner dans le ventre, ceux qui, jusqu'au bout, ont gardé les fesses vers la sortie et la tête vers le haut pour se faire bercer par le battement. En somme, notre relation au rythme est-il marquée par ce tout premier battement qui a entrechoqué dans nos oreilles? Et cet enfant qui danse, qui tourne, qui vit, vibre, lui, a-t-il laissé traîner ses oreilles vers le battement du cœur de sa mère? Peut-être qu'il a senti le battement avec plus de résonance que les autres? Et aujourd'hui, je le vois danser et je pense. Je pense qu'il faut se tourner vers le cœur de ceux que l'on aime, car leur tempo nous grandit. Oui, il faut se tourner vers le cœur de ceux que l'on aime.
Décalé.
Décalé.
Chronique décalée. Chronique décalée.
Julia Rondon, qui nous a fait le plaisir d'écrire, elle écrit bien, Julia, sur la chronique décalée, là, pour le coup, oui, c'est vrai, rapprocher les enfants de, je sais pas, du tempo, du battement du cœur, qui va justement peut-être leur permettre de futurs musiciens. Clément, ça vous parle, ça ?
Oui, je pense que non seulement le battement du cœur, et même la musique qu'on a pu entendre à l'intérieur du ventre, je pense que ça y joue. Et puis je pense que dès la naissance, dès tout petit, je pense qu'on est très influencé par l'environnement. Et du coup, la musique, je pense que c'est une grande part de l'environnement.
Mmh. Et ça, c'est une façon de parler de la musique aussi autrement. On parlait de la difficulté de mettre des mots sur les sons. C'est aussi un peu ça, peut-être, d'écrire à travers ce qu'entendent les enfants, les bébés.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, cette pulsation, ce rythme primaire, il est vraiment à la base de plein de musiques. Et c'est vrai que le côté rythmique de la musique, dans sa forme la plus simple, c'est le rythme, effectivement, je pense. Mmh. Ça doit sûrement venir aussi de là.
C'est aussi ce qui est important chez vous, chez Wachak. C'est le rythme.
Oui, bien sûr. Le rythme, c'est... Moi, en tout cas, je suis très sensible à ça parce que j'ai, en tant que beatmaker, donc fabricant...
un peu, c'est la semaine de la langue française.
Hein. Oui, mais bon, là, il y a des mots qui sont durs. Je ne vois même pas comment traduire beatmaker.
Non, c'est bien. En fait. Faiseur de rythme, c'est joli.
Faiseur de rythme, voilà. Ouais. En tant que faiseur de rythme, oui, je suis vraiment...
ça sonne vachement moins bien.
Je suis vraiment imprégné de ça et c'est quelque chose de fondamental. Quoi. Une musique sans rythme, même s'il n'y a pas de batterie, justement, il y a forcément un tempo, un rythme, une pulse. Quoi.
Parce que chez Wacha, vous n'avez pas de batterie, hein.
Non.
Vous avez de la percu.
Non. Mais là, maintenant, justement, dans mon nouveau projet, je rebosse avec un batteur, c'est génial. Mais je pense qu'en dehors de tout instrument percussif ou quoi, même avec une guitare, on a du rythme, on a du tempo. C'est vraiment une histoire de pulse. Et la pulse, mais effectivement, c'est le battement du cœur.
Une dernière réaction sur la chronique de Julia Rondon, peut-être, au-delà de ça, non ?
Non. Julia, elle a cette belle petite plume à chaque fois. Et je pense qu'elle décrit bien les petits événements qu'elle peut rencontrer. Comme ça, elle en fait toujours des petites anecdotes.
C'est vrai, les petites anecdotes qui deviennent effectivement des grandes. On va parler de petites questions. Tiens, c'est l'interview un peu que l'on appelle l'interview mitraillette de l'émission de l'Instant 2. En gros, je vous donne le principe, il n'y a rien de piège. Hein. Je vous pose une question très courte qui va commencer par si vous étiez et vous me répondez. Vous avez évidemment un joker si ça ne marche pas.
Si vous étiez
une chanson, tiens. Vous m'en avez parlé, mais je vous donne la chance d'en donner un deuxième titre.
Happiness is a warm gun, des Beatles.
Allez, les Beatles, grosse influence aussi.
Ah oui, énormément. Surtout notamment le White Album, où il y a cette chanson, c'est le genre d'album fourre-tout, où il se passe 10 000 choses, t'as 3 chansons en une et ça me plaît beaucoup.
Ça c'est super, puis les Beatles, il n'y a pas de problème, hein. Ça c'est une référence. Cocaïne ou vodka ?
Vodka.
Vodka. Est-ce que la musique est pour vous un acte politique, Clément ?
Oui.
Un grand oui ?
Oui, bien sûr.
Protest song ?
Oui, et puis je pense que dans tous les cas, étant sur scène et étant un média comme peut l'être n'importe quel média, on donne un message, on donne quelque chose aux gens. Donc oui, on est politique.
Si vous étiez un animal, DJ suprême Clem.
Une souris ou un rat.
Ah ouais ? Un tout petit truc comme ça qui se cache dans un trou.
Un peu hyperactif.
Il m'a fait de gestes en même temps, c'était drôle. Mais c'est quelqu'un qui se cache, vous êtes plutôt sur le devant de la scène, vous ?
Oui, mais je pense que... Non.
Vous aimez bien vous planquer dans votre grotte.
C'est ça.
De temps en temps. Si vous étiez un vinyle.
Ah, si j'étais un vinyle, Kind of Blue.
De
Miles Davis.
Ok. Vous avez entendu d'ailleurs l'ascenseur pour l'échafaud.
Oui, bien sûr.
En musique de portrait. Si vous étiez une ville, vous qui en avez tant parcouru.
Si j'étais une ville, j'hésite. Je dirais Los Angeles pour l'instant.
Pourquoi ?
Parce que j'y suis allé et que c'est une ville qui m'a bien plu parce que tout le monde dit que c'est complètement... chaotique et en fait je me suis senti très bien.
D'accord.
Le peu de fois où j'y suis allé, j'ai eu un sentiment de liberté là-bas. Donc effectivement ça me correspond pas du tout, moi qui ai pas le permis là-bas, sans voiture c'est impossible d'y vivre. C'est hyper étalé, c'est les États-Unis dans tout ce qu'il y a de pire pour certains côtés, on mange dans sa voiture, on fait tout en voiture.
Ouais.
Mais en même temps j'ai senti quelque chose de très inspirant.
D'accord, très bien, inspirant, c'est un joli mot. Si vous étiez un instrument de musique ?
Oh, un clavier.
Ouais.
Oui.
Bah oui, c'est ça que vous utilisez le plus sur scène.
Ouais, bah c'est ça.
C'est ça. Si vous étiez un musicien que vous admirez le plus, quelqu'un d'autre, vous pourrez. C'est comme ça, je vous donne la possibilité de vous mettre dans la peau d'un autre musicien ou d'un autre chanteur.
Ah, ça c'est très compliqué. Là.
Pourquoi ?
Ouais, parce que je sais pas justement qui j'aimerais être tellement de personnes à la fois.
C'est vrai, vous pouvez en dire plusieurs.
Ah ben, dans les claviers, on va dire, on va faire un patchwork, on va faire Thelonious Monk, Raymond Zarek.
D'accord.
Ça fait déjà deux qui auraient eu des belles expériences.
Ça, c'est pas mal, ouais. Pourquoi cela, en particulier ?
Thelonious Monk, parce que j'aime son côté assez fou dans le jazz qu'il a pu amener. Il a collaboré avec les plus grands, avec un jeu et une simplicité toute particulière et des très peu de notes. Et j'aimerais être aussi simple que lui dans son langage musical. Et Raymond Zarek, parce qu'il avait un côté un peu plus là qui me ressemble, on va dire, et qui faisait les basses et une grosse partie des harmonies dans les Doors, qu'il a composé, qui était un pilier des Doors dans, dans le son, quoi. Et ça, c'était un des seuls claviers héros que je connaissais et qui m'a bercé.
Moins Jim Morrison, alors.
Pourquoi ? Moi, non. Moi, Jim Morrison.
Non, vous, non.
Non, non, non.
D'accord, ouais, vous restez au clavier, vous avez bien raison. Un acte politique, la musique, ah bon ?
Oui, 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 comme j'ai dit, je pense que être sur scène, dire des... Quel que soit le discours, même s'il n'y a pas de mots, si c'est de la musique à l'image, ou que ça d'après moi, on décrit quelque chose et on dit quelque chose à quelqu'un, que ce public est même une personne, voire plus, c'est un acte politique, je pense.
Ce serait quoi le message politique de Watcha Clan ?
C'est, on va dire, une certaine liberté, une ouverture d'esprit, une tolérance vis-à-vis de l'autre, quoi.
D'accord.
Oui.
C'est bien. Watcha Clan, on en a beaucoup parlé. On va tranquillement passer à votre nouveau projet, puisque un nouvel album est sorti, un album que vous produisez. Et c'est Siska qui chante.
En fait, c'est le nouvel album de Karine. C'est son projet, entre guillemets, perso.
Mm-hmm. Il s'appelle comment, cet album ?
Ben, c'est Siska. Pour l'instant, c'est pas encore l'album, c'est que le EP qui est sorti.
D'accord.
En fait, Siska, après ben, ses 15 ans avec Watcha Clan, avait envie de changer aussi de manière de s'exprimer, de faire plus des chansons, d'aborder un peu le songwriting, l'écriture d'une autre manière.
Très bien, c'est mis en français dans le texte. Ouais.
Voilà. Et donc, d'aborder des thèmes qu'on n'abordait pas dans le groupe. Là, des thèmes plus personnels, l'amour, la vie de couple, ces choses-là. Donc, elle a écrit des chansons que moi, je me suis chargé d'arranger. Et
donc,
ça a donné.
Vous êtes
donc,
derrière.
Siska. Ouais, ouais, bien sûr, c'est encore un projet qu'on fait tous les deux. Et là, on vient de faire les premiers concerts. On commence les tournées. Mm. C'est vraiment un très beau projet. Et ce qui est bien, surtout, c'est qu'après Watcha, où on avait pu faire à peu près tout ce qu'on imaginait déjà en termes de tournée. Là, on repart un peu de zéro, on repart encore, et donc ça redonne une nouvelle excitation, une nouvelle... Quasiment, on repart à zéro, quoi.
C'est... Ouais.
On
est tout vierge. Il faut se renouveler aussi.
Exactement,
hein,
et donc c'était le but de ce projet.
D'accord.
Et donc, voilà, Siska...
On va en écouter un extrait juste après. Le clip de Unconditional Rebel, ça c'est le titre de la chanson qu'on va écouter. Il est incroyable. Moi, je vous invite à le regarder. C'est une sorte de travelling, en fait. Hein.
C'est ça.
Au
c'est
ralenti.
C'est un travelling qui a duré 5 secondes
en voiture. Non, mais ça, j'y ai pas cru.
Mais si, c'est vrai. Avec 80 figurants sur 100 mètres le long d'une route.
Dont vous, dont Elsa.
Ouais, dans toute la famille, les amis, plein de tout le monde. Et donc, c'est 5 secondes filmées avec une caméra fantôme à 1500 images secondes, je ne sais plus exactement.
Ouais.
Ralenti à 24 images secondes, donne un clip de 3 minutes 30.
Ouais.
Une sorte de slow motion, une sorte de fresque.
Mais c'est génial.
Ralenti. Oui, c'est un très, très beau clip.
Qui a eu cette idée, Clément ?
Le réalisateur, Guillaume Panariello. Donc, ça faisait longtemps qu'il avait cette idée de clip, et en entendant le morceau Unconditional Rebel, il s'est dit, ah, là je pense que c'est bon.
Incroyable.
Du coup, on a dû réduire un peu le clip parce que les capacités techniques de la caméra, elle pouvait prendre que 3 minutes 30.
Ouais.
Mais voilà, et du coup, il a pu réaliser son rêve, et nous aussi par même occasion, parce qu'en plus, le clip a buzzé, on a fait 2 millions de vues en moins d'un mois. Ça a été génial, ça a été relayé dans tous les pays, donc c'est une vraie belle expérience.
Je vous inviterai évidemment à aller le voir, ce clip de Unconditional Rebel. Je mettrai l'adresse sur la page de l'émission, hein, puisqu'elle est réécoutable sur radiogrenouille.com. On écoute Siska, c'est donc le nom de l'EP, et la chanson, c'est Unconditional Rebel.
Your voice. they broke. It's you I hear. Through worlds of chaos, I know. Time will tell. They'll call you for sure. Give me your hand. You are you my future.
Unconditional Rebels sur l'instant 2 à Radio Grenouille.
L'instant 2. L'instant 2.
Prenez le temps de partager sur Radio Grenouille.
Avec Clem du groupe Watcha Clan et qui est du coup maintenant producteur également de ce nouvel album de Siska. C'est une jolie, c'est un joli renouveau là, c'est bien.
Complètement.
De bosser ensemble.
Puis c'est super excitant de partir sur un nouveau genre de musique. Là, c'est vrai qu'on laisse un peu de côté le côté musique du monde ou le côté méditerranéen pour faire justement plus des chansons, de la une sorte de pop électro-soul, de choses beaucoup plus sensibles et beaucoup plus intimes. Et c'est vrai que c'est un bel exercice aussi pour Karine, notamment au niveau du chant et de l'écriture. Elle s'entoure
de
gens pour écrire les textes.
Elle a peut-être plus de place aussi pour chanter.
Bien sûr.
Pour
et écrire. Puis elle s'entoure aussi de gens qui écrivent des textes pour elle, qui elle aime bien, qui ont des sensibilités proches d'elle. Et puis moi, ça me permet d'explorer encore une autre manière de faire de la musique.
Oui, parce que Watcha Clan, c'est fini.
Non, mais c'est en pause, on va dire. On avait besoin de se renouveler et d'explorer de nouveaux horizons. Du coup, Siska est là pour ça. Quoi.
D'accord, donc ça va continuer. Vous allez partir évidemment en tournée petit à petit avec Siska pour ce nouveau projet. L'album, il est disponible.
Le EP 4 titres est disponible. Ouais. Le vrai album sortira à l'automne.
D'accord.
De toute façon, vous trouverez toutes les infos hein, sur les Facebook, sites, sur Internet, votre SoundCloud. Vous pouvez écouter le son. Le D'accord. clip, vous pouvez le voir aussi.
C'est bien, on mettra tout sur la page de l'émission, ben oui. évidemment. Un mot de la fin, Clem, éventuellement ?
Non, mais merci Mélanie pour cette belle émission. C'est vrai, plein de belles surprises.
Voilà.
C'est du bien d'avoir une émission comme ça, sur ce tempo un peu intimo,
Un petit mot quoi?
Je sais pas le deuxième mot, mais c'est vrai que c'est rare.
On va laisser trois petits points alors. C'est ça ou c'est l'instant 2? C'est les trois petits points. Merci beaucoup Clem. Merci Suprême Clem d'avoir été avec nous aux commandes de cette émission. Sébastien le fidèle, ça fait très les noms de chevaliers, hein Seb? J'aime bien moi en tout cas. Julia Rondon, merci pour cette chronique décalée, pleine d'enfance et de petites choses, car les petites choses, on parvient avec les grandes, avec le temps. Elsa Zotian d'avoir fait un très joli portrait, évidemment, de son homme, Clément, et puis Michel, qui doit nous écouter. Elle pourra réécouter son papa avec grand plaisir quand elle sera grande. Merci à l'équipe de Radio Grenouille. Vous retrouvez cette émission en podcast sur radiogrenouille.com. La page, c'est l'instant 2. Moi, je vous dis tout simplement de prendre soin de vous. Je vous embrasse et je vous retrouve le mois prochain.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.